Voici Dan Bigra.
Alors, il y avait, semble-t-il, un petit peu de légende urbaine qui disait qu'on on avait plus de chance avec le virus s'il faisait chaud, s'il faisait froid. L'Organisation mondiale de la santé vient de sortir un communiqué pour dire qu'il y a des pays de toute température et que ça se propage à la même vitesse. On reçoit Dr Richard Béliveau, qui est docteur en biochimie. Bonjour, docteur.
Bonjour.
Est-ce qu'on a des chances, est-ce qu'on peut être optimiste tant qu'à la vue d'un vaccin dans un avenir plus ou moins rapproché?
Oui, je pense que oui. Jamais dans l'histoire de la médecine puis de la recherche médicale, on a vu des progrès aussi fulgurants se réaliser dans une période de temps aussi courte.
Ah oui.
Normalement, ça prend des années ou des décennies quand on arrive à faire un vaccin, à en développer un. Là, il y a 166 vaccins à l'échelle mondiale qui sont à différentes phases de développement. Il y en a 25 qui sont en essai clinique chez l'homme, dans des phases 1, 2 et 3. Et il y en a 4 qui sont rendus à la dernière étape, qui est la phase 3. Alors ça, on parle là de dizaines de milliers de patients qui vont être, pour les phases 3, qui vont être traités cet été, qui vont recevoir le vaccin un peu partout, dans les endroits sur la planète où la pandémie est la plus... aiguë, aux États-Unis, au Brésil et ailleurs.
Ça a l'air beaucoup répandu dans les pays où leur président niait la présence du virus, hein?
Ah ben écoutez, il y a eu... on pourrait écrire des livres sur
parce qu'avec M. Trump et Bolsonaro, comprend un peu, là.
C'est ça. Alors, écoutez, la solution à une attaque virale, la solution à une attaque de bactéries, c'est les antibiotiques, mais la solution à une attaque virale, c'est vraiment la vaccination. Il y a des médicaments antiviraux, mais c'est vraiment la vaccination qui fonctionne le mieux. Et là, quand on voit ça, moi, je trouve ça très encourageant. Quatre études en phase 3, là, ça veut dire qu'écoutez, vu que ces études-là se font dans des endroits où la prévalence est très élevée, où le virus est très présent, la majorité des gens espèrent avoir des réponses à l'automne par rapport à cela. Et il y a un de ces essais-là qui est réalisé par l'Université Oxford avec la compagnie AstraZeneca. Ils sont tellement optimistes par rapport à les données de phase 1 et 2 qui ont été réalisées chez les humains. Là. Mm-hmm. Ils sont tellement enthousiastes qu'ils ont lancé la production du vaccin, même si la phase 3 n'est pas terminée.
Au cas où.
On voit jamais ça avec des médicaments. Ça veut dire que le vaccin, les données avec le vaccin sont très belles. Il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires dans la majorité des cas. Souvent, les gens ont peur des effets secondaires. La tolérabilité de tous les vaccins à peu près qui ont été regardés, parce qu'il y a différentes façons de faire des vaccins. Là, biochimiquement, on peut utiliser... On peut prendre le virus, l'isoler, l'inactiver. Ça, c'est la façon traditionnelle. Mais là, aujourd'hui, avec la biochimie contemporaine, on peut, avec le code génétique du virus, aller chercher des sous-unités de la capside du virus qui permet de pénétrer dans nos cellules puis de nous rendre malades, puis de générer ça par des vecteurs là, qui sont administrés aux patients. Il y a toutes sortes de méthodes qui permettent de faire ça. Et dans les études cliniques, il y a très peu, la tolérabilité par les patients est très élevée. Il n'y a pas eu aucun effet indésirable majeur qui a été enregistré. Ce qui a été noté, c'est fatigue, fièvre, ce qui est observé habituellement à maux de tête. Donc, par rapport à...
Oui, mais ce qui est mineur comparé...
par rapport à l'aspect foudroyant de si vous êtes... si vous êtes malade, il y a beaucoup de gens qui sont... C'est un drôle de virus, vous savez, très différent des autres virus. C'est un virus très ciblé qui touche les personnes qui ont généralement des comorbidités, là, hypertension, maladie cardiaque, diabète de type 2. Si vous êtes âgé, c'est ça qui va être un cofacteur. Si vous êtes en bas de 50 ans, c'est l'obésité qui est un facteur majeur. On l'oublie ici, là, parce qu'on a peur de parler d'obésité, mais l'obésité est un cofacteur majeur.
À 62 ans, est-ce que je suis un vieux pour vous, là?
Ah! Non! J'ai 67, fait que je ne vous mettrai pas dans cette catégorie. Non, vous êtes encore des jeunes. Quand on parle de personnes âgées, on parle en haut de 70 et 80 ans. Vous savez, en CHSLD, la moyenne de vie, c'est inférieure à 2 ans. Donc, les gens qui sont morts, 90% des décès qu'on a eu au Québec, Et puis ailleurs, c'est dans les CHSLD, c'était déjà des gens qui avaient déjà une santé très hypothéquée. Et le virus arrive et il vient, c'est un peu comme quand on fait un sport, qu'on fait du hockey, du football ou des sports de combat, puis qu'on est fatigué, puis là, on se fait faire, on ramasse un coup qui nous met à terre parce qu'on est épuisé. Là, c'est un peu ça. Quand on est obèse, par exemple, des études en France ont montré que si vous étiez avec une obésité, si vous étiez une personne avec une obésité, vous aviez 7 fois plus de risque d'être intubé et ventilé sur les respirateurs que quelqu'un qui avait un poids santé. Fait que c'est un facteur majeur.
On comprend qu'il y a beaucoup de croisements là-dedans parce qu'on parle de santé puis il y a d'autres conditions de santé qui se rajoutent à ça, donc c'est des il y a beaucoup de croisements qui se font dans notre corps évidemment qu'on voit pas. Oui. Et c'est difficile pour nous qui ne sommes pas biochimistes de parler de l'infiniment petit parce qu'on n'a aucun moyen de se l'imaginer. Ils font toujours un dessin d'une bebelle belle ronde avec des petites ventouses dessus, c'est lait à se suicider, c'est épouvantable.
Et là, mais ça ressemble à ça réellement.
Hein? Ah oui?
On est capable de les voir. On est capable de les voir.
Vous les voyez, ben oui, bien sûr.
Ouais, on les voit, c'est réellement ça. Et les espèces de champignons, là, les grains de popcorn qu'il y a à surface, par ça, ce sont des protéines, on appelle ça des spicules, et c'est un peu comme, vous savez...
Même le mot m'écœure un peu, spicule. Ça m'énerve d'avoir des spicules dans le corps. Moi.
Vous savez, un peu comme les chardons, là, quand ça s'accroche après quand vous allez marcher dans le bois. C'est un peu ça qui permet au virus de pénétrer à l'intérieur des cellules dans votre nez et qui ensuite pénètre dans vos vaisseaux sanguins ou dans le système cardiovasculaire ou dans votre cerveau et qui donne des effets secondaires. En fait, le gros des effets catastrophiques du virus, c'est pas le virus lui-même, c'est la réponse inadaptée du corps à cette infection-là. C'est la réponse inflammatoire exagérée. C'est pour ça que les gens surchargent de poids, ils sont en inflammation chronique, et le virus vient amplifier l'inflammation chronique qui est latente. Alors, c'est un peu ça. L'autre chose que j'aimerais ajouter, c'est qu'il y a eu d'autres progrès majeurs au-delà des vaccins qui sont en place présentement par rapport à la COVID. Il y a des données très belles qui montrent que si vous avez fait si vous avez été exposé, comme la plupart d'entre nous, à des coronavirus, à d'autres types de coronavirus.
Avec le SRAS, c'est pas le même, évidemment, mais c'est dans la même famille. Coronavirus aussi.
C'est ça. Et là, il y a une immunité qu'on appelle antérieure. Il y a une immunité acquise avec certains de ces virus-là qui vous donnent un certain niveau de protection. Et ça expliquerait la raison pour laquelle certaines personnes ont été exposées. Il y a beaucoup de gens qui sont exposés au virus puis qui n'en ont aucune conscience. Des porteurs asymptomatiques.
Oui, oui, oui.
C'est probablement parce qu'ils ont déjà une immunité antérieure acquise avec une exposition.
Moi, je me souviens après l'épidémie du SRAS, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui discutent en disant, ben, tel médecin a dit ça, tel médecin a dit ça. Oui, bon, moi, ce que je cherche, c'est un consensus scientifique. Dans ce temps-là, c'est beaucoup plus fiable, c'est évident. Et le consensus scientifique, à la fin de l'épidémie du SRAS, c'était d'avertir tous les gouvernements de façon très, très, très sérieuse qu'il va en avoir une autre. Et c'est pas une question de si, c'est une question de quand, on vous le garantit. Et les gouvernements ne se sont pas préparés. Et puis non plus, je me rappelle quand ils ont essayé d'aller chercher leur premier stock de masques, ils ont été obligés de les jeter parce que les élastiques ont tout pété, ils étaient secs. On n'était pas super préparés, là.
Oui, exact. Vous avez entièrement raison. En fait, ce qu'il faut voir, parce que c'est pas un virus, c'est un virus, là. Écoutez, la mortalité par le virus, c'est à peu près 1% là, à l'échelle mondiale. Là. Sur 100 personnes qui ont une infection, c'est autour de 1% qui meurt. Fait que c'est pas les pires virus. Et bien là, c'est 50% de mortalité. Là. C'est pas les pires virus qui existent dans notre univers biologique. Là. Donc, moi, je le vois paradoxalement comme une excellente pratique pour une infection qui, elle, serait vraiment catastrophique, qui toucherait tout le monde. Comme on l'a dit tout à l'heure, le virus touche surtout les personnes déjà malades, âgées, les personnes qui sont en surcharge de poids plus jeunes. À de rares exceptions, là, c'est ça la majorité des cas. Il y a des cas exceptionnels, évidemment, mais la majorité, statistiquement, c'est ça. Donc, dans le cas où on se prépare une stratégie de politique, de santé publique qui permet de répondre rapidement à une infection de ce type-là, ben quand on aura une... Il va y en avoir d'autres là, avec la déforestation, avec les habitats d'animaux qui sont perturbés. Il y a des virus qui étaient dans des niches écologiques qui vont apparaître sur la place publique puis qui vont donner des infections. Les gens se déplacent partout sur la planète. Et il va y en avoir d'autres types d'infections comme ça. Fait que, comme vous le dites, ça va nous donner...
L'être humain est très envahissant, hein?
Oui, très envahissant. On est surdominant par rapport aux autres espèces, puis on se rend pas compte. Vous savez, Pasteur qui est probablement la personne la plus importante dans l'histoire de la médecine puis la science médicale contemporaine a dit, messieurs, c'est les microbes qui auront le dernier mot. On est très fragile. On est un écosystème, le corps humain. On a des milliers. Il y a 10 fois plus de gènes bactériens dans un corps humain qu'on a de gènes humains. Notre colon contient 2 kilos de bactéries vivantes. Votre peau, votre nez, votre anus, vos yeux. Vous êtes un écosystème biologique. Ces infections-là rappellent juste notre fragilité par rapport à certains d'entre eux.
En fait, oui, on peut voir la mort comme une espèce de... On peut voir la maladie comme une espèce de déséquilibre et le déséquilibre ultime étant la mort.
Exact. C'est en plein ça. En biochimie, on appelle ça l'homéostasie. L'équilibre des systèmes en physiologie, là, c'est l'homéostasie. L'équilibre qui fait que le corps est en santé. Et la maladie, une pathologie, c'est une rupture. Quand je donne mes cours de biochimie à l'université, on appelle ça la rupture de l'homéostasie. C'est une rupture de l'équilibre. Et ça peut être causé au 20e siècle, c'était le tabac, le pire facteur perturbant. Mais au 21e siècle, c'est l'obésité, la surcharge de poids. Et l'Organisation mondiale de la santé a dit que la surcharge de poids va être au 20e siècle, au 21e siècle, ce que le tabac était au 20e. Donc, cette épidémie-là, avec ce dont on a parlé, nous rappelle qu'être en surcharge de poids, c'est pas juste un problème de diabète, c'est pas juste un problème d'articulation, c'est pas juste un problème d'augmentation du risque de cancer puis de maladie cardiaque et d'AVC, c'est un problème d'infection, de susceptibilité, de fragilité immunitaire à des infections virales.
Mm-hmm. On a parlé tout à l'heure de l'étude menée par une compagnie pharmaceutique qui s'est associée avec l'Université d'Oxford.
C'est ça.
Quand une université est impliquée, est-ce que ça devient... Moi, la seule trouille que j'ai avec ça, c'est que ça devienne simplement le nouveau diamant puis la façon de faire une fortune si c'est juste privé. Puis à ce moment-là, les riches vont être vaccinés, les pauvres n'en profiteront pas.
Je pense qu'avec les vaccins, c'est pas ce que vous soulevez, c'est vrai.
Est-ce qu'il y a des lois contre ça?
Il y a de l'éthique surtout. Et généralement, celle à laquelle vous faites affaire, AstraZeneca, Oxford, ils ont déjà émis un communiqué de presse à l'effet qu'ils ouvriraient leur étude pour permettre à d'autres de développer en parallèle la stratégie.
Avez-vous remarqué que quand on parle de centaines de milliards, l'éthique devient tout petit peu plus élastique?
Oui, mais le coût des vaccins, le coût d'un vaccin à l'unité, c'est pas cher par rapport à ce qui coûte cher généralement, c'est les anticorps monoclonaux, c'est les molécules de remdesivir, par exemple, qui est le premier médicament approuvé pour le traitement de la COVID. C'est un médicament qui coûte très cher. Et là, on a un problème parce que là, ce sont des synthèses compliquées, ce sont des brevets de synthèse. Il y a tout l'aspect pharmacologique qui est très complexe. Quand on arrive avec les vaccins, il y a beaucoup de grandes institutions publiques et privées qui ont la capacité de fabriquer des vaccins à très, très, très grande capacité. Quand on fait un vaccin, traditionnellement, c'est pour vacciner de grandes populations humaines. Donc, on est capable d'en produire en grande quantité et le coût unitaire est faible. Donc, à partir du moment où on a un bon vaccin qui vous donne une protection en plus de ça croisée contre d'autres coronavirus, généralement, les agences de santé publique s'entendent pour que la vaccination se fasse à l'échelle globale. Parce que de toute façon, si vous ne vaccinez pas une grande proportion
le
virus va continuer de circuler. Vous
avez les gens pas en santé vont continuer d'infecter les autres.
C'est ça. Vous allez avoir des porteurs qui vont continuer à circuler. Ce que vous voulez, présentement, c'est minimiser, protéger les gens vulnérables qui ont des maladies chroniques. et les gens en surcharge de poids de vraiment tomber très, très malades. Parce que là, on voit les chiffres, mais je vous rappelle que le nombre de morts, il n'est pas élevé là, les dernières semaines. C'est un ou deux ou trois morts par jour. C'est le nombre de personnes qui portent le virus qu'on met dans les journaux. La quantité, la proportion de gens qui meurent d'être infectés est faible, comme on l'a dit tout à l'heure. La proportion de gens qui vont aux soins intensifs est faible. Donc, faut remettre ça en perspective. Faut être prudent. Mais faut pas sombrer dans une peur morbide qui nous incapacite par rapport à nos gestes.
Non,
on le contrôle.
La peur est censée nous rentrer quelque chose dans le système qui va nous faire réfléchir. Réfléchir vite, des fois, mais réfléchir. Ça nous fait paniquer, on réfléchit pas. L'autre question que je me pose, qui me semble quand même pas un détail, c'est que c'est bien beau de découvrir le vaccin, mais le distribuer, je me commande une pizza, arrive frette à un heure en retard, si on veut vacciner 8 milliards de personnes, je prévois certains délais.
Vous avez entièrement raison. C'est la raison pour laquelle on a besoin des agences gouvernementales puis des grandes pharmaceutiques. C'est pas juste la vaccination qui est le problème, c'est de faire l'étude elle-même. Je vous rappelle que si nous, on développe dans mon laboratoire un médicament contre le cancer de l'ovaire ou le cancer du cerveau, les gens vont venir à moi pour recevoir le médicament. Mais quand vous développez un vaccin, vous devez aller vers les populations qui sont malades. Et ça, ça demande une logistique complexe parce que le virus, il se déplace. Il était en Chine, ensuite il est allé en Europe, ensuite il est allé aux États-Unis, là partout, il est en Amérique centrale, là il se promène partout, mais il n'est pas en pic partout, donc les gens qui font ces études-là, ça demande une logistique, une infrastructure hallucinante pour pouvoir se déplacer puis trouver le personnel sur place pour procéder aux essais. Et ensuite, comme vous le dites, ben là avec généralement c'est les agences de santé publique par pays qui signe des ententes avec ces grandes corporations-là, et puis le vaccin est distribué à travers les agences de santé publique.
Oui, parce que c'est planétaire. Mais enfin, on en reparlera quand j'aurai une pizza chaude. Merci beaucoup, Dr. Béliveau. C'était infiniment éclairant. Merci beaucoup. Passez une belle journée.
Bonne journée.
C'était le Dr. Richard Béliveau, docteur en biochimie. On imagine toujours les scientifiques en étant très straight. Il est très amusant, lui. Puis en plus, je comprends tout. Il est très fun à discuter. Mais on a aussi, j'aime beaucoup, Mark Hamilton, microbiologique, qui est président de Eurofin Environex. Et je l'ai dit comme il faut. Et on va être de retour avec lui, de retour après la pause.